connaissez des personnes atteintes de cancer, de maladies auto-immunes.
Savez-vous qu'une grande partie de ces malades a besoin de plasma pour vivre? Les besoins en médicaments issus du plasma ne cessent d'augmenter.
Nous avons vraiment besoin de vous.
Pour donner à la Maison du Don de Reims, rendez-vous sur notre site internet dondesang.fr.
Ladies and gentlemen, voici Funky Town.
Funky Town.
Le son funky.
C'est le moment de transformer votre salon en piste de danse.
Piste de danse.
Montez le son. Montez
c'est
le son.
Funky Town sur RJR.
Sur RJR.
Chaîne en or qui brille et veste à paillettes. Funky Town, c'est mercredi à 22h sur RJR, Radio Jeunin.
Le son funky.
La cartonnerie présente Barbara Pravi. Barbara Pravi en concert, samedi 5 avril à la cartonnerie de Reims. Réservation point de vente habituel, plus d'infos, cartonnerie.fr.
Les artistes régionaux ont leur radio.
RJR,
Sambre.
Oh, elle danse encore, et mes petits yeux se perdent dans son regard. Elle bat son plein, seule dans sa bulle, elle danse encore, se sent bien dans son corps.
Lucy Joy.
Ah, si seulement j'avais su ce qui comptait vraiment, m'entendras-tu?
Les artistes régionaux ont leur radio.
RJR.
RJR.
RJR,
Radio Jeune Reims.
Mais l'album! Quel album?
C'est Jefferson Airplane, White Rabbit.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur Exact Musique. Je suis Vic Santana, ravi de vous retrouver ce soir, mes amis, pour une nouvelle émission sur RJR et Stone Rock Radio. Ce soir, mes amis, une émission qui fleure bon le conflit, qui fleure bon le chaos. Oui, je vais vous parler d'une dizaine d'albums pour lesquels le succès a été au rendez-vous parce qu'ils sont géniaux. Mais mon Dieu, la production et la manière dont ils ont été faits, waouh! Accrochez-vous, mettez votre ceinture, parce que ça va être compliqué.
We'll be right back.
Today, et ça c'est l'album Siamese Dreams des Smashing Pumpkins en 1993. Alors, l'album a eu un succès retentissant, deuxième place au Billboard, quadruple disque de platine, l'album s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde, c'est l'album vraiment qui va les faire exploser aux yeux du monde entier. D'ailleurs, après, on aura Poisson's Iscariot, et bien entendu, juste après, vous l'aurez compris, puisque vous avez écouté notre émission sur les Smashing Pumpkins, ça a été suivi par Melancholy et Infinite Sadness. Mais pour Siamese Dreams, retour en 1993. L'album s'enregistre dans l'état de Géorgie, plus précisément au studio Triclops de Marietta, entre décembre 92 et mars 1993. J'allais dire Kurt Cobain, mais non. Billy Corgan et Butch Vig, qui avaient aidé au premier album Girsch, eh bien, sont au studio et ils ont décidé de travailler comme des timbrés. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Ça a été des journées à plus de 12 heures de travail. Il y a une raison aussi pour ça, c'est que Monsieur Billy Corgan a décidé d'enregistrer entièrement l'album en analogique. Oui, donc forcément, ça prend plus de temps pour le mixage, pour travailler sur des très 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 petites séquences sonores, qui a largement cassé les pieds à l'ensemble du groupe. Cette volonté ambitieuse de mettre la barre si haute n'était en réalité que l'expression d'une dépression nerveuse que Billy Corgan possédait depuis quelques années. Et à partir de l'enregistrement de cet album, il a décidé de consulter un thérapeute. D'ailleurs, ça lui a permis de se libérer un peu, d'où la pertinence des paroles, surtout sur le morceau Today que nous venons d'écouter. D'ailleurs, comme c'était une des premières chansons écrites et enregistrées, il faut savoir que les dirigeants de Virgin Records sont venus observer le groupe. Bah oui, ils avaient entendu quelques petites rumeurs. Et finalement, ils sont écoutés et puis ils ont dit « Oh, bah, c'est cool, bon, ciao, bon courage les gars !» Le problème, c'est que ça a enfoncé Corgan. Et le résultat, c'est que tout le monde a fait des heures sup. Lui et Vig travaillaient parfois sur des sections de 45 secondes pendant deux jours, alors que parfois ils travaillaient 16 heures par jour pendant des semaines pour obtenir le son souhaité par Corgan. Le délire et le désir de perfection étaient extrêmement, tellement important et tellement extrême que ça a mis à l'épreuve les relations entre le groupe. Darcy s'enfermait dans la salle de bain, James ne disait plus rien, Billy Corgan s'était enfermé dans la régie, et Wretzky, lui, il essayait de faire ce qu'il pouvait, le pauvre. Alors, il déclara d'ailleurs que Corgan n'avait joué que la plupart des parties de basse et de guitare, car il pouvait les enregistrer plus facilement et avec beaucoup moins de prises. Beaucoup de rumeurs pendant l'enregistrement de l'album avaient circulé dans la presse musicale, et Corgan, bon an mal an, a quand même indiqué que oui, il était responsable un petit peu de la situation littéralement tyrannique au sein du groupe. Mais c'est parce qu'il voulait bien faire. Chamberlain, d'ailleurs, lui, s'est barré. Parce que malheureusement, l'idée aussi d'enregistrer ailleurs, c'était pour aussi le retirer d'un environnement extrêmement malsain, vu sa consommation abusive de drogue. Sauf qu'à un moment, il s'est barré, mais on ne sait pas où il est allé, pendant trois jours. Et quand il est revenu, eh bien Vig lui a dit « Tiens, prends les bâtons, c'est toi qui es à la batterie, et tu vas jouer, et tu vas jouer, et tu vas jouer ». Effectivement, il a joué jusqu'à ce que ses mains en saignent, pour vous donner une idée. Bref, ce fut extrêmement complexe. Corgan avait dit à ses collègues qu'il leur avait donné un an et demi pour préparer cet album, et même s'il se sentait entouré de gens qui comptaient beaucoup pour lui, eh bien, ils continuaient, eux, à le décevoir. Ambiance. À savoir également que, pendant l'enregistrement de l'album, petite cerise sur le gâteau, Corgan traversait également ses propres difficultés, malgré le soutien de sa thérapeute. Et il faut savoir qu'il planifiait littéralement son suicide. Il déclarait s'être débarrassé de la plupart de ses affaires, il fantasmait même sur sa propre mort. Il commençait même à délirer, à imaginer ses funérailles et la musique qui pourrait y être jouée. Alors, malgré tout, l'album va être terminé, les masters vont être faits, mais ils ont besoin de le mixer. Et enfin, Corgan et Vic se disent, on va donner ça à quelqu'un d'autre, et c'est Alan Mulder, un ingénieur son, qui va mixer l'album. Sous une petite pression de la maison de disques qui, au final, vu l'album être terminé, après 4 mois de dépassement pour un budget supplémentaire de $250,000. Bon, après, je vous dirais, vu le succès de l'album et ce qui a permis de créer la légende des Smashing Pumpkins, ma foi, ça valait le coup. Damn It, sorti en septembre 97, issu de l'album Dude Ranch, second album de Blink-182, qui lui aussi est sorti en juin 97. Alors, cet album a été enregistré avec le producteur Marc Trombino. Et en fait, il a été choisi un petit peu par hasard, et relativement par dépit, parce que il a été recommandé par les copains du groupe San Diego Fluff. Et les membres de Blink-182, qui sont des gens plutôt décontractés, sympathiques, ont essayé de temps en temps d'amuser Trombino, en vain. Même la sœur de Marc Opus, Anne Opus, a décrit Trombino comme quelqu'un de très calme, peut-être trop calme pendant les sessions. Trombino, lui, a indiqué qu'il était à la fois excité, mais aussi nerveux et intimidé. Il sentait bizarre qu'il y ait des gars à côté de lui qui avaient vendu bien plus de disques que lui et qu'il soit assis dans un fauteuil de producteur à leur dire quoi faire et quoi exécuter. Dude Ranch, l'album, lui, a été enregistré au Big Fish Studio à Rancho Santa Fe, en Californie. Et Big Fish, ce studio était en fait une maison d'hôte qui a été reconvertie et qui venait quelques mois plus tôt de survivre à un incendie de forêt. Alors, l'atmosphère un peu morose au niveau des habitants, des locaux qui ont vécu ça comme une tragédie n'a pas empêché l'ensemble du groupe de rire et de faire des plaisanteries par rapport à tout ça. D'ailleurs, Marc Opus, le bassiste, venait d'acheter une nouvelle caméra vidéo et il a filmé des cascades avec Tom DeLonge sur le paysage brûlé pendant son temps libre. Voilà. Cependant, Trambino, lui, a été par contre impressionné par l'éthique de travail de l'ensemble du groupe. Un groupe qu'il considère comme extrêmement centré sur, sur ses affaires. Ils avaient leur situation bien en main, ils savaient absolument quoi faire. Et à ce moment-là, essor créatif lors de l'écriture des paroles, mais les trois membres du groupe ont rencontré des difficultés lors de l'enregistrement de cet album. Alors, ça commence bien parce que DeLonge a des problèmes vocaux, il passait beaucoup de temps à enregistrer et à enregistrer des pistes vocales. Opus, lui, s'est rendu compte qu'il avait lui aussi des difficultés à chanter après avoir perdu sa voix parce que ce monsieur est allé faire un concert de Noël. Lui, en tout cas, Opus, lui, a réalisé l'ampleur de la situation et il a même, par dépit et embêtement, annulé la dernière semaine d'enregistrement en décembre 1996. Il a même décidé d'arrêter de fumer afin de prendre soin de sa voix qui avait, elle, été stressée par le manque d'échauffement vocaux. Des journées entières ont été consacrées aux pistes vocales et beaucoup, beaucoup de tension a été au cœur du chant pour Damnit, que nous venons d'entendre, et qui était un accident. Il faut le dire. La chanson a été écrite en 5 minutes. Elle raconte juste qu'est-ce que ça fait quand on rencontre son ex quand elle sort du cinéma et que vous êtes dans le bar d'en face. Ça va pas plus loin. Le souci, c'est que elle a été écrite en dehors de la tessiture vocale de Opus. Ça fait un peu de mal. Pendant ce temps-là, Raynor, a dû enregistrer ses pistes de batterie. Oui, parce que c'est Raynor, pas encore l'autre. C'est dans l'ancien. Alors que lui, il était en fauteuil roulant. C'est pas une blague, hein. Que des conneries, que des trucs bêtes. Parce qu'en fait, il a fait une soirée de dédicace et il s'est blessé. Alors, il s'approchait de la batterie en fauteuil roulant, il se glissait sur le trône, disait-il, et il jouait. Par contre, Trambino, lui, il avait l'impression que le groupe était complètement déprimé. Et en dehors de l'enregistrement, le groupe passait son temps à jouer aux jeux vidéo, à lire des articles des rayons où le magazine Playboy était gentiment fourni par le studio. Le groupe déjeunait dans un restaurant mexicain. D'ailleurs, dans la chanson Josie, ils en parlent. Et ils aimaient aussi manger chinois à la fin. En 97, les sessions d'enregistrement ont été finalisées. Et succès. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est aussi à ce moment-là que Scott Raynor a été remplacé par Travis Barker. Et c'est à ce moment-là qu'ils enregistrèrent en 99 Enema of the State, qui restera l'album qui permit au monde entier de connaître et reconnaître Blink-182.
Focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The unfamiliar state. Try to kill it all away, but I. Sweetest friend. goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. I'll wear this crown of shit.
Nine Inch Nails avec Hurt. Et si je vous parle de Hurt, je ne peux que vous parler de The Downward Spiral. Deuxième album du groupe, album concept déjà au départ, qui relate la destruction d'un homme et son entrée dans la spirale descendante jusqu'à sa tentative de suicide. Alors, ça va se fonder sur des musiques industrielles, d'électronica, de métal, beaucoup de synth-pop et une influence de divers albums tels que l'autre David Bowie en 77, des Pink Floyd avec The Wall en 79. Et c'est Alan Moulder qui s'est chargé de la production et du mixage en 1994. Alors, il faut savoir que les premières idées pour cet album, ils ont été élaborées après le concept de Lollapalooza en 91. Donc l'année précédente. Bien que la production par rapport à l'EP Broken de 92 ait commencé fin 91. Donc les deux projets étaient dans la même veine. Initialement, Train 13 Nord devait enregistrer l'album à la Nouvelle-Orléans, mais il a changé d'avis pour des raisons financières. Et oui, c'est toujours l'argent qui contrôle tout. Il emménage donc en 92 dans une maison située à Beverly Hills où l'actrice Sharon Tate a été assassinée par les membres de la famille Manson. Drôle de choix! Reznor s'est alors procuré des instruments, du matériel de production et a construit un studio dans la maison qu'il nomma le Pig. D'après le message qu'il avait griffonné sur la porte d'entrée avec le sang de Tate par ses assassins. Toujours dans la sympathie. Donc, enregistrement de The Downward Downward Spiral dans cet album studio, dans ce studio Le Pig en 93. Broken a été, qui est un autre single, a été en partie enregistré au même endroit. Gave Up également. Et Hurt aussi. Un certain nombre d'artistes furent invités pour l'enregistrement, dont Stephen Perkins, l'ancien batteur de Jane's Addiction et Porno for Pyrrhos sur I Don't Know Want This, et le guitariste Adrian Bilou sur Self-Destruct and the Piconing. Trent Reznor, par contre, a maîtrisé de manière étonnante la technologie, qu'elle soit ancienne et nouvelle en termes d'enregistrement, et c'est quelqu'un avec qui travailler est très intriguant, mais ça a aidé. Il a collaboré dans le même lieu avec d'autres artistes, et il utilisait notamment un Mac avec Pro Tools à l'intérieur. Et l'une des dernières visites de Reznor à Le Pig a eu lieu en décembre 93. Et il relatait ceci à nos confrères de Rolling Stones en 97. Lorsqu'il travaillait sur The Downward Stewart, il vivait dans la maison où Sharon Tate a été tuée. Et un jour, il a rencontré sa sœur, Patty Tate. Et complètement par hasard. Ils se sont croisés rapidement et elle a été honnête. Elle lui a demandé « Est-ce que vous exploitez la mort de ma sœur en vivant dans sa maison ?» Et pour la première fois, ça lui a mis une grosse claque. Bien entendu, il lui a dit « Non, c'est juste ma manière à moi de m'intéresser au folklore américain. Je vis dans cet endroit où une étrange séquence de l'histoire s'est déroulée. » Et en fait, ce qui l'avait frappé, ce qui ne l'avait par contre jamais frappé auparavant, mais là, en fait, si. Elle avait perdu sa sœur dans des circonstances absurdes qu'elle ne peut cautionner, et personne ne le peut. Et elle lui a fait prendre conscience pour la première fois, et si ça avait été ma sœur. Il est rentré chez lui, Reznor a pleuré, et ça lui a fait comprendre qu'il y a plusieurs côtés aux choses, qu'il y a plusieurs points de vue, et qu'il faut toujours, toujours essayer de prendre le point de vue dans tous les sens possibles. Après l'enregistrement de l'album, Reznor a déménagé et la maison a été démolie peu après. Et cet album, eh bien, il exprime le nihilisme, qui est un terme prédominant, ainsi que l'autodestruction. Mais c'est aussi un album qui va explorer l'idée qui arracherait méthodiquement les surfaces du monde qui l'entoure, qu'elle soit au niveau des relations sociales, la religion, etc. En fait, cet album, The Downward Spiral, à la fois, en plus d'être un album formidable, allez l'écouter, c'est une véritable leçon sociale. Sinners Never Sleep de You, Me at Six. Ouais, il y a beaucoup de choses, et le titre que nous venons d'écouter, c'est Lover Boy. Alors, Sinners Never Sleep, cet album de You, Me at Six, est disponible depuis septembre 2011. Ce single, lui, est sorti en 2011 également. Et il y a eu un succès commercial qui a rapidement permis au groupe, britannique, je tiens à préciser, d'arriver au top 3 des meilleurs albums au moment. Alors, ça s'est pas fait sans mal. Alors, l'album a été reçu sans aucun problème. Même Kings of Leon, Foo Fighters, Chidi Bang étaient heureux d'entendre ça. Et au niveau de la pré-prod de l'album, ils ont réussi à avoir Garth Richardson, qui avait travaillé notamment avec Rage Against the Machine. Les sessions d'enregistrement ont lieu principalement au Sunset Sound et au Sound Factory à Los Angeles. Et You, Me at Six devait assurer la première partie du Parkway Drive en Australie en mai. Comme c'était prévu qu'ils finissent d'enregistrer en mai, pas de souci. Cependant, ils ont été contraints de se retirer de cet événement parce que l'album n'était pas terminé. Ouais, il faut savoir que le chanteur Franceschi, en fait, s'est engueulé avec toute l'équipe de production lors d'une conférence téléphonique. Alors, il était cool, hein, ce type. Hein, il faut savoir que quand c'est arrivé. Et on lui a dit que l'enregistrement, c'était foutu, c'était fini. Il a été viré d'une autre tournée, le groupe, hein, à cause de lui, d'une tournée avec Blink-182. Et il a aussi insulté Noel Gallagher parce qu'il était en train d'enregistrer son album solo. Enfin, il s'est fait plutôt insulter par Noel Gallagher qui tenait le projet secret et l'autre, il a ouvert sa bouche. Alors, le groupe a perdu 2 semaines de temps de studio. Ils avaient quand même enregistré énormément de choses. Mais disons que pour croire que la confiance que les gens avaient envers le chanteur, elle est devenue proche de zéro. Alors malgré tout, l'album s'est très très bien vendu. Mais quand même, si vous êtes sujet à l'anxiété, faites attention si vous êtes le meneur d'un groupe à succès. Et voir tout votre boulot être foutu en l'air pour prise de tête, ça vaut peut-être pas le coup finalement. My Hero des Foo Fighters, The Color and the Shape, en 1998, puisque l'album lui est sorti en 97. Alors, c'est un album où les Foo Fighters sont vraiment en membre complet. Premier album, sous le nom simple de Foo Fighters, et bien c'est Dave Grohl qui avait enregistré et interprété toutes les parties lui-même, à l'exception d'une partie guitare qui, elle, avait été jouée par Greg Dulli. Donc la formation originale se réunit, après quand même une grande tournée intensive de 95 à 96, où bah, le groupe est devenu quand même une sensation pour le monde entier. Et cet album, qui a été enregistré à Grandmaster's Recorders à Hollywood, sur une période de 2 mois, c'est quand même assez court, eh bien le groupe avait déjà passé 2 semaines en pré-production à l'automne précédent, donc en 96. Ils répétaient, ils modifiaient les arrangements, et leur producteur de l'époque, Gene Norton, a joué un rôle crucial dans le groupe à simplifier les chansons et à mieux comprendre un concept très important, l'auto-édition. Alors les premières sessions ont débuté, Dave Grohl a trouvé cette expérience décevante et il a décidé de réenregistrer littéralement la plupart des morceaux. Oui, il a pris la place de Gene Norton, tout simplement. Alors, ils ont fait une pause pendant les vacances, Grohl a écrit de nouvelles chansons, dont Walking After You et une version acoustique de Everlong, le master hit des Foo Fighters, et le groupe revient en 97 au Grandmaster Recorders, où Grohl a réenregistré la plupart des morceaux à la batterie. D'ailleurs, il a remplacé les enregistrements de William Goldsmith par la même occasion, qui lui a fini par quitter le groupe en raison des tensions instillées par Monsieur Dave Grohl. Alors, bien entendu, le budget et les délais sont devenus des préoccupations, comment dire, secondaires. Et le groupe, lui, est resté concentré sur la qualité musicale, prenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, petite fun fact, le titre de l'album vient d'une remarque amusante du manager de tournée sur une quille de bowling. Oui, en fait, ils aiment bien jouer au bowling après un concert. Il faut le savoir. Et quand ils ont vu l'orthographe britannique Collar, C-O-L-O-U-R, en hommage à Norton, eh bien, une chanson titre a été enregistrée, mais elle n'a pas été incluse dans l'album final. Et finalement, Grohl a trouvé que l'album ressemblait à une séance de thérapie, passant à la fois de la peur jusqu'à la résolution de ses peurs afin de trouver des solutions et des outils pour lutter contre The Color and the Shape. Tout simplement. I push my fingers into my eyes. It's the only thing. Slowly stops the ache, but it's made of all the things I have to take.
I'm gonna make it.
Mais 2024, versus, The Subliminal Versus Volume 3, troisième album de Slipknot, qui est sorti chez nous un petit peu plus tard, il faut le savoir, avec une petite édition spéciale, et ouais, pour une fois que le... Hein, voilà. Le groupe de Corey Taylor, deuxième groupe, parce que oui, le premier, c'est Stone Sour. Eh ouais, si vous le saviez pas. Quoi qu'il en soit, vous le savez, hein, Exact Music, c'est bon pour votre culture. D'ailleurs, c'est le Duality, c'est le premier single qui est sorti en mai 2004. Alors, Sean Crahan de Slipknot avait indiqué que le premier album avait été génial. Le deuxième, c'était comme si on te disait « va te faire foutre, on est en train de mourir ». Et le troisième, c'était le processus de guérison. Et de Subliminal Versus, c'est réellement ça. Alors, beaucoup de spéculations avaient circulé concernant ce troisième album, l'avenir du groupe, puisque les membres travaillaient sur d'autres projets musicaux, et souvent en même temps et en parallèle. Cependant, ils ont tous déclaré que le fait de pouvoir sortir dans la boîte dans laquelle ils se trouvaient vis-à-vis de Slipknot, les avait sauvés. Et ce rôle salvateur, c'est aussi positionné de manière étrange vis-à-vis de certains membres du groupe. Le batteur, Joey Jordison, a déclaré, par exemple, qu'ils ne s'étaient pas parlé pendant 3 mois. Ils sont restés parfois assis là, à gaspiller de l'argent, dans le fabuleux manoir Houdini. Ça a été en fait l'occasion de régler leurs différends qui avaient entravé plusieurs fois leur processus d'écriture. Sean Crahan, le percussionniste, ou le clown pour les autres, les intimes, a indiqué que finalement on en a eu marre d'attendre, que les choses se passent, on s'est retrouvés, on a bu quelques bières, on a écrit des chansons vraiment artistiques et tordues, et fin. Oui, même Corey Taylor a admis dans une interview qu'il avait beaucoup bu pendant ce séjour au manoir. Je buvais du moment où je me levais jusqu'au moment où je m'évanouissais. Et pendant qu'il buvait, tout sonnait comme si c'était nul, très très nul. Et à un moment, ils ont réussi à tous s'en sortir. L'idée était de lutter contre leurs propres démons, que cela soit leur colère, l'alcoolisme, certaines pulsions. Des comportements déplorables. C'est un album qui a permis de renouveler leur créativité malgré ces débuts difficiles et les conflits que le groupe a réussi à gérer finalement en interne et par eux-mêmes. Et ça c'est rare quand même. Le producteur Rick Rubin avait suscité, lui, des avis mitigés au sein du groupe. Certains membres critiquaient son manque de présence et d'engagement. Taylor avait même indiqué qu'il l'avait vu 2 fois. Mais comme l'album était un tournant dans sa lutte contre ses propres démons, il le remercie. Tout simplement. Comme quoi, parfois, il y a des personnes qui sont présentes et qui n'ont pas beaucoup d'effets, et certaines autres, juste parce qu'ils vont vous dire un truc et vous allez le voir 15 jours plus tard, ça va vous sonner et vous serez en capacité d'exploser, de fleurir, de créer, de produire. Thank you.
is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for dead. Oh please God, wake me. Back in the womb it's much too real. It pumps life that I'm a. Can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Head to the dude that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me.
One, l'album Injustice for All. Et de la justice, il n'y en a pas eu beaucoup, puisque ben voilà, Jason Newsted arrive après la mort de Cliff Burton, et le premier producteur Mike Klink se fait virer et est remplacé par Fleming Rasmussen. La première tâche de Rasmussen, ça a été d'arranger et d'ajuster le son des guitares dont le groupe n'était pas satisfait à ce moment-là. Une piste de guide, une piste de tempo pour la batterie de Ulrich furent utilisées également, et le groupe joua d'ailleurs dans une salle de concert, et ils enregistraient les instruments séparément, chaque morceau utilisant trois tempos identiques pour que tout le monde puisse ne pas se perdre. Alors, le processus était plutôt nouveau, surtout pour Newsted, qui s'interrogeait sur son impact et sur le son global de son instrument, mais aussi sur le manque de dialogue avec le reste de l'équipe. Il va enregistrer ses parties séparément, uniquement en présence de l'ingénieur assistant. Drôle d'ambiance. Et même si l'album est connu pour une production très sèche, Rasmussen était écœuré. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois, Lars et James demandaient à ce que la basse, le son de la basse, soit baissé. Alors, du genre, par exemple, vous la baissez là et puis vous allez la baisser encore 3 décibels. Il n'y a eu aucune raison qui a été donnée et l'ingénieur adjoint Jason et Rasmussen sont certainement les seuls à avoir entendu les pistes de basse de Jason Newsted sur Injustice for All. En 2019, Hetfield et Ulrich ont déclaré qu'en fait, c'était pas pour dénigrer Newsted, c'est qu'en fait leur audition était défectueuse après une tournée intense et qu'ils avaient donc continué à monter le son jusqu'à ce que les basses disparaissent. Ils ont décidé de ne pas ajuster ça au mixage, d'ailleurs pour la version remasterisée de 2018. La